Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Suite du débat dans cette journée spéciale que France Culture consacre aux violences sexistes avec les suites du mouvement Balance ton porc et MeToo. Nous sommes en compagnie de la pédopsychiatre et psychanalyste Caroline Eliachef, notamment auteur du Temps des victimes avec Daniel Soulez-Larivière. Et puis je salue Elliot Lepers. Bonjour. Êtes activiste numérique, expert en mobilisation. Vous êtes notamment à l'origine de Macholand avec Caroline Dehas et Clara Gonzalez. Vous allez nous dire en quoi Macholand consistait. Je vous ai invité parce que vous êtes jeune, mais malgré votre jeune âge, vous avez déjà une longue expérience de la mobilisation numérique. Et puis, on voit bien que l'une des spécificités de ce mouvement Balance ton porc, c'est d'abord d'exister sur Internet. Quel regard portez-vous sur ce mouvement, Elliot Lepers?
Je pense que c'est très enthousiasmant parce que ça montre que y a plein de femmes qui tout d'un coup ont posé un mot sur une violence qu'elles avaient subie et qu'elles n'avaient pas forcément identifiée comme quelque chose d'anormal ou quelque chose de répréhensible. Donc voilà, c'est un mouvement qui s'est pas constitué de manière très institutionnelle autour d'un mouvement féministe, autour des associations. C'est pas elles qui ont organisé, orchestré ce mouvement comme elles le portent d'habitude. Ça a été assez spontané. Même si voilà, c'est avant tout un titre de presse, le New Yorker, qui fait cette enquête pendant un an sur Weinstein. C'est ça qui permet d'institutionnaliser le combat, de montrer que, eh bien, même des journaux très établis s'emparent du sujet. Et donc après, il y a une libération de la parole. Moi, je trouve que c'est effectivement intéressant quand on compare avec le contexte en 2014, quand on avait lancé Macholand initialement.
C'était quoi Macholand?
Macholand, c'est un média d'interpellation contre le sexisme. C'est-à-dire qu'on identifie dans l'actualité des propos sexistes tenus par une personnalité, souvent un politique ou bien par une publicité. Et puis on propose aux internautes d'interpeller l'auteur, l'autrice de ce propos. Et donc de faire réagir. On a gagné plusieurs changements concrets, notamment l'exemple que je préfère, c'est les statuts types d'associations sur le site servicepublic.fr qui proposaient de nommer par défaut un président, un vice-président et un ou une secrétaire. Et bien suite à la mobilisation autour de Macholand, et bien les statuts types ont changé, donc ça a un impact très réel pour toutes les associations qui ont téléchargé ces statuts types par la suite sur le site Service Public. Et on voit bien que à l'époque, ça c'était encore extrêmement controversé, c'était dénoncer le sexisme, c'était compliqué, ça semblait vraiment quelque chose de presque exotique, quoi. Et puis depuis 2014, eh bien la parole est devenue beaucoup plus normale. Les médias parlent, relaient ce genre de mobilisation de manière spontanée aussi de leur côté. Et donc, ça montre qu'il y a une évolution dans ce combat-là. Et ça, c'est évidemment très enthousiasmant.
Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont la séquence s'est déroulée, puisque vous avez parlé de l'affaire Weinstein. Alors, le New York Times sort deux affaires. Une affaire qui concerne un présentateur de Fox News qui n'est pas connu du tout en France, il s'appelle Bill O'Reilly. Et puis donc, il y a l'affaire Weinstein qui sort. On a donc deux affaires qui sont dans des milieux entre les médias et le cinéma, où on a affaire à des gens qui sont privilégiés, en tout cas socialement, ce qui n'empêche pas que des gens privilégiés peuvent être harcelés. Et puis on voit que ce hashtag en France, par exemple, il va se diffuser dans toute la société, ou en tout cas tout le monde en parle. Quelle réaction cela vous inspire-t-il?
Que tout le monde parle de ce sujet, que ce soit transcende.
Qu'il y ait un départ dans un milieu qui peut être considéré comme un milieu privilégié, puis ça descende dans la totalité de la société.
D'une certaine manière, c'est plutôt normal qu'une enquête soit plus facile pour une personnalité publique. Et on a besoin d'enquête parce que c'est ça qui permet à la parole des victimes d'être reconnue. Et donc, l'enquête, elle est importante parce qu'elle permet d'éviter les accusations de diffamation, ce qui est très fréquent dans ce genre d'histoire. Et donc, une personnalité qui est reconnue, qui est identifiée aussi par ses victimes, et puis qu'il y a eu plusieurs victimes, eh bien, ça permet de corroborer un récit. Donc, c'est d'une certaine manière assez logique que ça parte de là et que ce soit aussi retentissant parce que c'est une figure publique. Et donc, moi, je trouve que c'est un point de départ intéressant parce que ça permet de montrer d'abord qu'il n'y a pas d'impunité, même pour les personnes puissantes. Et du coup, pour des personnes un peu moins puissantes qu'un producteur d'Hollywood aussi populaire, eh bien, finalement, il peut y avoir également une justice. Donc ça, moi, ça me paraît normal. Après, je ne sais pas si c'est dans toutes les couches de la société qu'on en a parlé. Je ne suis pas sûr que tout le monde a eu son fil Facebook rempli des MeToo, des moi aussi, des balance ton porc. Moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus.
Justement, vous qui observez les réseaux sociaux, vous êtes quasiment né avec les réseaux sociaux, Elliot Lepers, est-ce que vous avez des moyens de savoir finalement qui relaie cette information, qui participe à la mobilisation sur Twitter par exemple?
Il y a eu des études qui ont été menées là ces dernières semaines sur la propagation des hashtags. Après, c'est très compliqué d'avoir une analyse vraiment des profils de personnes qui participent, d'autant que parmi les messages, il y a aussi beaucoup de critiques. Donc, il n'y a pas que des témoignages qui ont utilisé ces mots dièses, comme dirait l'Académie française. En l'occurrence, ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de femmes qui ne s'étaient pas encore exprimées sur ce sujet-là et qui, tout d'un coup, ont porté des revendications qui sont, par essence, féministes, même si, pour elles, c'était pas forcément du féminisme ou qu'elles se sentent pas forcément féministes. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça a transcendé le milieu habituel, informé des militantes et des militants.
Caroline Eliachef, votre regard sur ce que l'on vient de se dire.
Oui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux un petit peu à double tranchant, et je pense en particulier à toutes ces applications qui servent à diffuser le harcèlement, en particulier chez les jeunes, dans les milieux lycéens et à l'école. Et je crois qu'il faut en parler là maintenant, parce que d'un côté, vous avez ces applications qui permettent aux femmes de dire ce qu'elles ont vécu, très bien. D'un autre, vous avez un certain nombre d'applications qui permettent à des jeunes de se harceler. Alors c'est évidemment, je pense que là il y a vraiment quelque chose à faire pour bloquer ces applications qui sont d'ailleurs régulièrement bloquées et qui régulièrement réapparaissent.
Elliot Lepers.
Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a un vrai problème sur le cyberharcèlement, sur le revenge porn également, et il y a des mesures qui sont prises.
Le revenge porn, on va tenter une traduction, l'utilisation d'images pornographiques pour se venger de quelqu'un, pour le menacer, pour...
souvent des ex-conjoints, la plupart du temps des hommes, qui publient des vidéos d'actes sexuels avec une ex-compagne, pour humilier, finalement, comme moyen de pression.
Le fait que cette mobilisation ait lieu sur Internet, le fait donc qu'elle se déroule sur Twitter, avec finalement d'ailleurs assez peu de noms évoqués, puisque au départ, l'une des questions qui s'était posée était de la dénonciation ou de la délation, les deux termes n'étant pas un synonyme, Elliot Lepers.
Oui, d'ailleurs, le premier message sur le mot dièse balance ton porc, c'était une journaliste qui dénonçait un directeur de rédaction. Et ensuite, ça n'a pas été suivi par un flot de noms. Ça a été plutôt suivi par des récits de violences qui ont été subies, mais sans qu'il y ait de dénonciation de personnes. Et je pense notamment parce que les victimes ont certainement peur, justement, que ça puisse être poursuivi par une plainte en diffamation. Et on sait bien que la justice aujourd'hui, elle ne fonctionne pas en faveur des victimes. 95% des femmes qui dénoncent du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail perdent leur emploi. Donc il n'y a aujourd'hui pas de canal judiciaire qui fonctionne, qui permet d'entendre cette parole et de la traiter.
Mais ça justement, est-ce qu'on ne peut pas aider cela, Elliot Lepers, puisque notamment le tweet auquel vous faites référence, lorsqu'on voit donc dans nos milieux, dans ceux du journalisme par exemple, des personnes qui sont évoquées sans qu'on puisse voir de qui il s'agit, eh bien, est-ce qu'on ne se dit pas, finalement, ce serait bien aussi d'aller porter plainte ou en tout cas de faire une procédure en justice pour que cette personne arrête de nuire si elle est encore en activité ?
C'est évidemment l'idéal. D'ailleurs, on peut le rappeler, quand on a été victime, eh bien, porter plainte, ça permet de caractériser, ça permet d'ouvrir une enquête et c'est effectivement le passage nécessaire pour faire condamner les agresseurs. En revanche, porter plainte, c'est pas forcément facile. Et donc là, ce mouvement-là, il permet de légitimer la parole. Parce qu'il y a un élan collectif, parce que tout d'un coup, la norme évolue. La norme qui était de se taire, la norme qui était d'avoir peur, la norme qui était d'avoir honte, eh bien, grâce à ce mouvement, elle montre qu'en fait, eh bien, la norme, c'est plutôt d'être agressé par des gens et donc de pouvoir en parler maintenant. Ça, c'est quand même nouveau. Et donc ça, c'est très positif. Ça va permettre de libérer la parole et également dans les tribunaux.
En parler maintenant, c'est justement ce qu'a tenté de faire Maïwenn Guizhou, notre reporter, est allé avec son micro auprès de ces femmes qui se sont fait connaître, qui se sont exprimées autour du hashtag Balance ton porc, et elle a notamment rencontré Jalmad, le pseudo sur Twitter d'une femme magistrate active sur le réseau social. Elle considère sexiste l'injonction faite par beaucoup d'hommes aux femmes de porter plainte.
Sur l'injonction à déposer plainte, pour moi, c'est... D'une part, on suppose voilà, que la femme est un peu idiote quelque part. Je veux dire, elle subit quelque chose, ma foi, bah, qu'elle dépose plainte, c'est si simple. Voilà. Donc un ressort quand même un peu sexiste à la base. Et puis aussi doublé d'une méconnaissance crasse sur le sujet, quoi. Qui s'intéresse un peu au sujet et aller lire des témoignages, je veux dire, c'est connu. La difficulté à déposer plainte, elle a plein de raisons. Toutes les victimes les donnent. Enfin voilà, donc sauf à supposer que je ne sais pas combien de milliers de femmes victimes complotent ensemble pour donner les mêmes versions des choses. Voilà, il faut se rendre à l'évidence.
L'injonction de porter plainte, donc, serait une injonction sexiste. Jalmad le dit, c'est quelque chose, effectivement, que moi, je n'avais pas perçu de la sorte. Votre réaction par rapport à ça, Elliot Lepers ?
On observe que à chaque fois qu'une victime parle, on lui dit que c'est sa faute. D'ailleurs, c'est le cycle de l'agresseur hein, qui a été identifié en psychologie, qui montre que quand une femme est sous l'emprise de son agresseur, qui peut être son conjoint, qui peut être un membre de la famille, un collègue, parce qu'on le rappelle, dans 90% des agressions, la victime connaît l'agresseur. Hein, donc, il faut arrêter avec le mythe de la ruelle sombre dans laquelle se passe le viol. Et les agressions vont au-delà des viols. Mais donc, effectivement... Quand on comprend ça, eh bien, ça permet de réaliser que, voilà, il faut sortir de cette spirale-là d'une certaine manière, quoi.
Mais est-ce que le fait de dire porter plainte, ça vous paraît être une injonction sexiste, alors que c'est avant tout l'idée qui semble être une idée plutôt raisonnable, selon laquelle la justice est quand même...
Ouais, c'est un tout en fait. C'est que c'est pas uniquement porter plainte, c'est que d'abord il faut se taire, et puis d'abord il faut vérifier la longueur de la jupe, et puis d'abord il faut vérifier comment t'as parlé, est-ce que tu l'as regardé, et puis il y a tout un tas en fait d'obstacles où systématiquement on remet la victime en position de culpabilité. Et ça c'est ce qui est observé, c'est évident, et c'est ça qui empêche les femmes et les victimes de parler. Donc ça va jusqu'à, effectivement, il faut porter plainte, tu n'as pas porté plainte, c'est ta faute. Voilà. Il faut comprendre que d'abord, une agression, ça génère un traumatisme, et qu'un traumatisme, ça peut d'abord générer de l'oubli, et puis ça peut mettre énormément de temps à permettre à la parole de sortir. Et donc, il faut arriver à une situation où les femmes peuvent parler, peuvent porter plainte, mais pour ça, il faut à la fois former les personnels, à la fois de police, de la justice, toutes les personnes qui sont en lien avec les femmes victimes. Et puis derrière, il faut faire évoluer la loi, notamment sur la prescription, pour que, eh bien, les condamnations puissent exister. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1% des agressions qui sont condamnées.
Caroline Eliachev, vous souhaitez réagir ?
Oui. D'abord, les choses ont changé lorsque les femmes vont porter plainte. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'elles sont mal accueillies, etc. etc. C'est pas vrai, les choses ont changé. Je crois que il faut pas porter plainte toujours. S'il y a eu viol, c'est indiscutable. Il faut porter plainte. Sinon, je pense qu'il ne faut pas penser que seule la justice permettra de faire changer les choses. Ce sont les femmes et les hommes et la société entière qui va faire changer les choses progressivement, et que tout ne va pas se régler par un changement de loi, etc. etc. Voilà. Il s'agit maintenant, effectivement, que les hommes et les femmes prennent eux-mêmes les choses en main, que les choses s'arrêtent et que aillent en justice les cas les plus graves qui doivent y aller.
Justement, Elliot Lepers, puisque vous avez à peu près la moitié de mon âge, est-ce que vous trouvez qu'il y a une question de génération là-dedans ? C'est-à-dire que ma génération a du mal à comprendre ces choses-là, et que la vôtre a en partie résolu la question.
C'est pas résolu la question, loin de là. En revanche, effectivement, ce qui paraissait acceptable il y a 25 ans l'est beaucoup moins aujourd'hui. On est moins tolérant vis-à-vis de ces comportements-là et vis-à-vis d'autres comportements en général. Donc ça, c'est un bon signe, mais on est encore loin d'une situation égalitaire. Et puis, effectivement, moi, pour réagir sur est-ce que la justice est la seule solution, c'est intéressant. La justice n'est pas la seule solution. On a tous, toutes et tous, un rôle à jouer au quotidien. Par exemple, quand on est au bureau, et bien, si quelqu'un fait la blague sexiste sur la longueur de la jupe, sur l'apparence physique de la collègue, et bien, si on rigole pas grassement avec l'auteur de ce propos-là, et bien, ça fait évoluer la société. Si on pose la question autour de soi parce qu'on se dit, et bien, voilà, on a la cousine, on a la bonne copine qui semble un peu bizarre ces derniers mois, qui a l'air de se dévaloriser énormément vis-à-vis de son couple, mais si on lui pose la question, on lui dit, t'es sûr que ça va, on se rend compte effectivement que peut-être elle va parler. Si on lui donne l'opportunité de parler, eh bien, les femmes victimes, elles parlent. Donc on a toutes et tous un rôle à jouer là-dessus. C'est important d'être à l'écoute, d'identifier quand quelqu'un va mal, d'être en mesure et donc de se former à ça. Et ça, c'est aussi un objectif des années à venir.
Deuxième témoignage recueilli par notre reporter Mayouen Guizhou, celui de Mathilde. C'est une jeune femme de 22 ans. Si elle pensait avoir de la chance n'ayant pas vécu de violences sexistes traumatiques, elle a reconnu dans des témoignages des situations qui lui étaient arrivées.
En lisant tous les témoignages, tu te dis « Ah bah ouais, mais ça aussi, ça m'est arrivé, ça aussi, ça m'est... » Enfin, tu vois. Et du coup, tu te dis « Ah bah ouais, bah putain, bah en fait, c'est pas juste j'ai eu de la chance, moi aussi j'ai eu de la malchance, ou moi aussi j'ai... » Enfin, me too, quoi. T'as un sentiment de fierté, peut-être, de dire « Bah putain, on est quand même à une époque où les filles, elles peuvent commencer à prendre la parole et à s'exprimer en masse sur le sujet et à ce que ça ait une résonance médiatique, quoi. »
Donc ça, c'est une forme de cristallisation. Caroline Eliachev, vous souhaitez...
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre bien que tout ce qui était intériorisé s'extériorise. Hein, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire tout ce que les femmes et les hommes... Hein, je crois, je veux dire que les quand on dit les femmes ont été agressées, les hommes aussi, les enfants, garçons, ont été à peu près autant agressés que les filles. Il faut quand même le savoir. Et c'est extrêmement intérieur. Bah, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes filles qui ont été agressées et pratiquement tout autant de garçons. Voilà. Qui le disent pas. Pour eux, c'est encore très, très intériorisé. Et donc là, ce que cette jeune fille dit, c'est j'en ai pas parlé, c'était à l'intérieur de moi, et maintenant, je le mets à l'extérieur.
Alors, ça, c'est un processus, en anglais, on dit shaming, notamment sur les réseaux sociaux, c'est au cœur du dispositif Elliot Lepers, et l'un des thèmes que l'on a entendu, c'est « la honte doit changer de camp ».
La honte doit changer de camp et la peur doit changer de camp. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant que les agresseurs n'aient pas peur, que les agresseurs n'aient pas honte. Et c'est effectivement tout ce poids-là, toute cette culpabilité repose sur les victimes, notamment parce qu'elles se sentent isolées, notamment parce qu'elles se sentent complices, mais parce que on est dans une société qui entretient une forme de culture du viol où dans toutes les images qu'on diffuse, notamment...
Justement, qu'est-ce que vous appelez culture du viol ?
C'est un sujet qui est passionnant et dont on pourrait parler.
Une définition de ce terme.
Je suis d'ailleurs pas l'expert de ce sujet et ce serait intéressant d'en parler plus longuement parce que quand on déconstruit la culture, le cinéma, les livres, à chaque fois le rôle des héroïnes dans la culture, comment est-ce qu'on présente les femmes, on se rend compte que elles sont très très fréquemment victimes d'agressions dans les films dont on se rend pas forcément compte. Il y a des études cinématographiques qui sont faites sur la cinématographie du XXe siècle, où on voit que dans une grande proportion de films, le couple qui existe est un couple issu d'une agression sexuelle, qu'on ne perçoit pas forcément comme tel, à tel point on est formaté intellectuellement. Mais quand on observe, eh bien, finalement on se rend compte que le héros a forcé un baiser auprès de l'héroïne. Ça, c'est des signaux faibles. Ça, c'est un exemple, ça ne suffit pas à créer la culture du viol. C'est un ensemble de signaux dans notre société qui nous fait trouver normal, finalement, des comportements d'agression et d'agresseurs.
Caroline Eliachev, une définition pour la culture du viol.
La culture du viol, il me semble que c'est une notion sociologique américaine qui, effectivement, a analysé un certain nombre de stéréotypes. Voilà, très, très discuté chez nous.
Chez nous,
en France.
Pas chez nous, psychanalyste ou psychiatre.
Je ne sais pas.
Ça n'est pas un concept usité, en tout cas.
Pas vraiment, c'est un concept sociologique. Voilà, je crois qu'effectivement, il faudra en discuter plus longuement ou le mettre un petit peu de côté par rapport au sujet.
Et alors, justement, Elliot Lepers, par rapport à cette culture du viol, en quoi un hashtag, mais aussi les autres formes de mobilisation, puisque, donc, je le rappelle, vous avez notamment été l'initiateur de Macho Land aux côtés de Caroline De Haas. En quoi le fait de lancer des mobilisations sur Internet permet de déconstruire, de lutter contre cette culture du viol?
Mais pour poursuivre, parce que il y a un élan collectif. Parce que tout d'un coup, les victimes se rendent compte qu'elles font partie d'un groupe, qu'elles ne sont pas seules, que ce qui leur est arrivé n'est pas unique, n'est pas rare, en fait. Et donc, elles se rendent compte que ça fait partie d'un système d'oppression où, eh bien, il y a des hommes. D'ailleurs, il y a une étude qui est intéressante. Un tiers des hommes, c'est une étude, encore une fois, il faut prendre avec les circonstances, mais un tiers des hommes se disent prêts à commettre un viol si jamais ils sont sûrs de ne pas être inquiétés par la justice. Un tiers. Même si c'est pas un chiffre qui est forcément exact, ça montre quand même une tendance. Et donc la honte montrait qu'effectivement, quand on est victime, tout le système judiciaire pousse à avoir honte, parce qu'on est en permanence questionné dans son statut de victime. Donc ça, d'un côté, et puis derrière l'impunité des puissants qui ne sont que très rarement poursuivis, 99% des agressions n'étant pas condamnées.
Donc, alors, dans le cas du harcèlement de rue, ça n'est pas nécessairement le fait de puissants, et c'est probablement l'un des cas où il n'y a quasiment
ça, c'est jamais discutable. C'est discutable parce que l'espace public, il y a des études qui montrent aussi ça, que l'espace public, il a été conçu pour les hommes. Et que effectivement, dans la rue, quand vous observez la place prise par les hommes, et d'ailleurs il y a ce mouvement qui est intéressant aussi autour du man spreading, donc spreading pour étaler, c'est quand on observe dans les transports en commun des hommes qui ont les cuisses écartées, donc qui prennent une place et demie dans le métro, quand les femmes ont les genoux serrés, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Donc on apprend aux hommes à parler plus fort dans l'espace public, à prendre plus de place, à conduire des plus grosses voitures, et inversement on apprend aux femmes à parler faiblement, à avoir des toutes petites voitures, et puis à serrer les genoux, parce que c'est ce que fait une jeune fille bien. Tout ça contribue à un espace public qui est largement occupé par les hommes et donc qui se retrouve en domination, mais tout simplement aussi en domination de force physique, parce que une jeune femme qui se retrouve pour le harcèlement de rue, qui, je le répète, est encore une partie réduite de l'ensemble des agressions. Eh bien, quand on est confronté à un homme, eh bien, on n'est pas en situation de force quand on est une femme. Et donc, il y a un rapport de domination très clair qui s'opère. Donc, la domination, l'oppression, elle existe à tous les niveaux, qu'elle soit petite ou qu'elle soit importante. Et effectivement, c'est ça qui aujourd'hui génère ce sentiment d'impunité, parce que aussi, on n'a pas les outils pour l'identifier et pour le poursuivre. Et se dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir tous ces hommes qui s'expriment en disant « Ah, attention, il y a une chasse aux sorcières, qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» Ça nous rappelle les heures sombres de l'histoire. De quoi ils ont peur, en fait? Moi, j'ai pas peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui savent qu'ils peuvent être inquiétés par ce mouvement.
Laura, première violence, c'est la dernière personne rencontrée par Maiwenn Guizhou, une personne donc qui a été, dit-elle, comme de nombreuses femmes, présentée à un certain nombre de violences sexistes et qui a donc témoigné sous le hashtag MeToo.
Ce qui est délicat, c'est qu'on a du mal à mettre le curseur pour savoir à quel moment on appelle ça des violences, à quel moment c'était une agression. Mais effectivement, plusieurs fois, ça m'est arrivé. La première fois, j'avais 9 ans. Dans notre hall d'immeuble, en fait, on est tombé sur un mec qui se masturbait et qui nous a arrêtés spécifiquement. Donc, effectivement, il ne nous a pas touchés, il ne nous a pas fait quoi que ce soit. Mais je me souviens qu'à 9 ans, ça a eu un impact absolument énorme sur moi. Et pendant des années, j'ai eu la trouille de revenir à cet endroit précis de mon hall d'immeuble. Et en fait, je me suis vite rendu compte, même en devenant adolescente, que c'était quelque chose qui allait devenir assez courant. Moi, la chose qui m'a le plus marquée, où là, vraiment, je pense que j'appellerais ça une agression et une violence, j'avais 16 ans et je portais un jogging, un pantalon élastique, et j'étais dans le métro et c'était assez bondé. Et je me souviens qu'un homme a carrément mis sa main dans mon jogging et m'a attrapée carrément, comme Trump, par la chatte. Et je suis restée, complètement prostrée, quoi. J'ai rougi et j'ai pas bougé, et j'ai juste levé la tête, et je me souviens qu'il m'a souri. Et c'était un homme en costume, trois pièces, une quarantaine d'années. J'ai eu honte, en fait, et je l'ai laissé descendre à sa station, trois stations après, quoi.
Un mot de réaction, Caroline Eliachef, au témoignage de Laura.
D'abord, elle a rencontré un exhibitionniste, ce qui est relativement fréquent. Ils ne sont pas dangereux du tout, mais ils font très peur, surtout aux petites filles, mais aussi aux petits garçons. Deuxième séquence qu'elle raconte, qui est effectivement tout à fait violente, et voilà, qu'elle n'a pas raconté, qu'elle raconte là. Donc elle n'est pas seule, effectivement, il y en a beaucoup, etc., etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que parler, c'est bien, savoir qu'on n'est pas seul, c'est bien. Est-ce que c'est thérapeutique? J'en doute. Pas pour tout le monde en tout cas, hein. Et il faut dire aussi aux personnes qui veulent pas parler que c'est bien aussi.
Elliot Lepers, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Très concrètement, dimanche, il y a des rassemblements partout en France qui se sont intitulés « MeToo dans la vraie vie ». Donc ça, c'est une première manière de poursuivre la mobilisation. Et puis surtout, il faut continuer d'en parler. Là, on s'est rendu compte, pendant 2 semaines, on a eu une couverture sur ce sujet absolument énorme, avec même un président de la République en exercice jusqu'à il y a quelques mois en une du Parisien, alors que pendant 5 ans, il n'avait reçu aucune association contre les violences. Bon, ça, on voit que le sujet devient peut-être plus intéressant. Ça, c'est important. Les médias ont un rôle à jouer parce que c'est grâce à eux que effectivement ce sujet devient un sujet réel et pas seulement un accessoire, quoi. Donc ça, c'est bien. Le mouvement doit s'amplifier. La parole va se libérer de plus en plus. Il y a des enquêtes qui vont se poursuivre parce que partout, à tous les postes de pouvoir, il y a encore des hommes agresseurs qui sont là et il faut qu'ils commencent à assumer les conséquences de leurs actes.